Bonjour à toutes et à tous, c'est Manon de l'émission 3 en 1 et aujourd'hui on se retrouve pour un plateau spécial football pratiqué par les femmes dans De Boule Vanille.
De Boule Vanille, je pense que
j'ai pris De Boule Vanille.
De Boule Vanille,
je sais pas.
De Boule Vanille!
Si certains clubs français ont développé leur section féminine depuis plusieurs décennies, au Stade Rennais, il a fallu attendre 2021 pour voir apparaître une section structurée. Et cette question-là, personnellement, elle m'interroge beaucoup. Pourquoi un club historique du football français a-t-il attendu aussi longtemps pour créer une section féminine? Pourquoi le football pratiqué par les femmes a-t-il été si longtemps laissé de côté? Parce qu'à Rennes, depuis quelques saisons, la section féminine semble prendre une nouvelle place. Les matchs attirent davantage de public, les médias locaux commencent à suivre l'équipe et les ambitions sportives montent rapidement. Le Stade Rennais féminin sort d'une saison très solide, terminée en tête de son championnat de régional. Alors, est-ce que le Stade Rennais rattrape enfin son retard côté féminine? Et qu'est-ce que l'exemple rennais nous dit du football féminin en général? Pour en parler aujourd'hui, je suis avec deux invités, Sandy Montagnola, enseignante-chercheuse, et Swazig, l'une des déléguées du Stade Rennais pour l'association Eurgame2. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Avant de débuter, on va parler syntaxe. En fait, en préparant cette émission, j'ai compris que l'expression football féminin n'était pas vraiment adéquate. Cela voudrait dire que le football féminin n'est pas du football comme le football masculin, qu'on n'appelle pas football masculin d'ailleurs. Alors que si, évidemment, c'est la même chose. C'est pour cette raison que j'ai essayé, j'ai bien dit essayé, de ne pas trop utiliser cette expression pendant cette émission. Et Sandy et Swazig, de votre côté, vous faites comme vous le souhaitez. Donc avant de parler du Stade Rennais aujourd'hui, il faut peut-être revenir en arrière parce que si Rennes a attendu 2021 pour créer sa section féminine, ce retard ne sort pas de nulle part. Le football pratiqué par les femmes a longtemps été invisibilisé, peu soutenu et parfois même décrédibilisé. Donc pour commencer, on va faire un petit tour côté histoire et socialisation avec vous, Sandy Montagnola. Pourquoi, pour vous, le football s'est-il historiquement construit comme un sport masculin ?
Alors c'est une longue histoire finalement du foot qui amène à ça. Le premier élément, c'est que on oublie assez fréquemment effectivement que les femmes ont joué au foot très rapidement et donc on a des matchs de foot dès 1881 et jusqu'à 1896. Et on a ensuite une structure qui s'est réalisée, mais comme plein d'autres sports, c'était le cas aussi en athlétisme, donc dans des sports qui n'étaient pas encore ouverts aux femmes. Ce qu'on va avoir, donc là plutôt, on est aux alentours des années 20, on a une structuration de ce sport par les femmes elles-mêmes et dans des clubs féminins. Donc ça veut dire ici que les femmes en fait sont un peu contraintes de monter des clubs qui leur permettent de jouer à différents sports ou de participer à différentes compétitions, simplement parce qu'elles en sont parfois exclues de compétitions masculines. Donc elles montent leur propre club ou en fait vont revendiquer la possibilité de faire ça. C'est ce qu'on trouve aussi exactement dans le foot. Et après, en fait, assez rapidement, ce qu'on va trouver, c'est une interdiction du foot au féminin par les institutions. Et donc, ça veut dire qu'en fait, toute cette première partie ici montre qu'il y avait un intérêt des femmes pour le foot, qu'il y avait une structuration. Et quand on commence à structurer ce sport et puis que ça fonctionne, en fait, on voit qu'il y a une interdiction de la part de la fédération. Et donc, les compétitions, certaines vont continuer, c'est juste qu'elles sont pas officielles. Et donc, on va avoir, pour le coup, un retard, puisqu'on va avoir vraiment une institutionnalisation qui va se faire plutôt dans les années 90. Et donc, de fait, on n'a pas le même fonctionnement, simplement parce qu'on n'a pas la même histoire. Et le deuxième élément, c'est qu'on a pendant longtemps eu un oubli, qui est pas non plus spécifique au foot, parce qu'on sait que les femmes ont très souvent été invisibilisées ou oubliées de l'histoire. Et c'est le cas aussi pour le foot. Et donc, on a une ouverture qui se fait bien plus tardivement. Mais il faut se rappeler que côté foot pratiqué par les hommes, on a aussi une construction qui s'est faite dans le temps. Ça veut dire qu'au départ, le foot ressemble pas du tout au sport populaire tel qu'on le connaît maintenant, en fait.
Et quand on regarde les cours de récréation, les clubs amateurs ou encore les représentations médiatiques, est-ce que cette séparation, elle reste encore visible aujourd'hui ?
Alors, bah, clairement, cette séparation, elle reste visible aujourd'hui. Les différents travaux de recherche montrent que ce soit dans les différents lieux, donc plutôt dans des pratiques, on va dire, qui sont pas celles du haut niveau, on trouve exactement la même chose, c'est-à-dire par exemple plus de difficultés pour les femmes et donc les plus jeunes de pouvoir rejoindre des clubs, tout simplement parce qu'il y en a moins, donc ça veut dire aussi plus de kilomètres, par exemple, pour pouvoir rejoindre un club. On le voit aussi du côté l'ensemble des infrastructures qui peuvent être disponibles et qui sont beaucoup plus régulièrement utilisées par les hommes et pour lesquelles plusieurs témoignages montrent que les femmes peuvent s'en sentir exclues et donc de fait collectivement ne pas s'en saisir et donc de fait moins jouer au foot. Et c'est vrai encore plus dans les on va dire des pratiques qui vont se faire notamment au collège sur des pratiques on va dire plus éducatives pour lesquelles on voit des différences énormes sur la façon dont chacun chacune va s'approprier l'espace et notamment les garçons beaucoup plus facilement s'approprier l'espace et le fait de pouvoir pratiquer du foot et en exclure généralement les femmes. Donc oui, c'est un élément qu'on retrouve on va dire dans différents lieux et à différents niveaux de pratique.
Justement, les infrastructures, j'en ai parlé il y a quelques jours, puisque j'ai réalisé une interview avec Luc Arondel, chercheur au CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris et co-auteur de L'argent du football, le foot féminin. Pour lui, il y a trois étapes pour garantir la progression du football pratiqué par les femmes.
L'avenir économique du football féminin, il passe par trois choses. La formation, tout d'abord, c'est-à-dire qu'il faut former de plus en plus de jeunes footballeuses, et ça, c'est vraiment essentiel pour que le jeu soit plus compétitif, soit de meilleure qualité, on va dire, entre guillemets, plus technique. Le deuxième élément, c'est la professionnalisation. Donc, les réformes de la fédération 16 vont dans ce sens. Donc, la professionnalisation, notamment avec la signature de la nouvelle convention collective. Et ensuite, il y a la médiatisation qui permettra effectivement de mettre en valeur tout ça. Je pense qu'à partir du moment où il y aura de plus en plus de femmes qui jouent au foot avec des filles qui vivent de leur football, je pense que quelque part, la médiatisation suivra. Un des éléments importants, c'est de permettre à toutes les jeunes filles qui veulent jouer au foot de le faire. Et c'est pas forcément actuellement, c'est encore pas évident, hein, à dire. C'est-à-dire que ça nécessite des terrains supplémentaires, ça nécessite des infrastructures supplémentaires. Donc, je pense effectivement, il faut aussi tenir compte, il faut essayer de profiter de tous les grands événements sportifs liés au football féminin pour essayer de, effectivement, souvent ça suscite beaucoup de vocations. À partir du moment où il y a beaucoup de vocations qui sont suscitées comme ça, c'est aussi de permettre au club de pouvoir accueillir toutes ces nouvelles et jeunes footballeuses. Ça a été la revendication des footballeuses anglaises quand elles ont gagné l'Euro. Effectivement, on s'est aperçu qu'après, ça avait suscité beaucoup de vocations, mais que les clubs étaient dans la capacité d'accueillir toutes ces nouvelles venues. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait faire un effort.
Sandy Montagnola, est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois étapes et leur ordre, donc formation, professionnalisation et seulement après la médiatisation?
C'est compliqué comme ça. Si on reprend on va dire ces trois étapes pour répondre rapidement, mais ces trois étapes, elles sont nécessaires puisque de fait, il faut développer plus à la fois les infrastructures, les formations et la professionnalisation. Et en fait, ces éléments-là vont, on va dire, complètement ensemble. Sur la partie médiatisation, c'est un peu différent puisque l'histoire des médias nous montre que le sport et les médias se sont développés conjointement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le sport qui s'est développé et ensuite les médias qui sont venus couvrir parler de ce sport. C'est qu'en fait, le sport a servi à développer les médias, tout simplement parce que les médias avaient besoin d'une matière qui soit plus récurrente pour permettre d'avoir, on va dire, une audience ou un public. Et on voit ce qui se passe, c'est que la médiatisation elle-même va influencer complètement à la fois l'économie du sport, mais aussi sa structuration. Ça veut dire qu'il y a plein de règles dans différents sports qui ont été pensées ou changées spécifiquement à destination d'une médiatisation. Parce que cette médiatisation, à la fois, elle permet, via les droits télé, par exemple, on va dire, de financer, mais de cette médiatisation dépend aussi en partie, par exemple, les revenus via les sponsors, ça veut dire une exposition des athlètes. Donc ça veut dire qu'il y a, comment dire, et c'est le cas, je le disais tout à l'heure, pour le foot tel qu'il est pratiqué par les hommes, c'est la façon dont on a médiatisé ce foot dont on l'a fait connaître parce que les débuts du foot sont plutôt des débuts un peu poussifs avec l'idée de c'est un nouveau sport, il faut le faire connaître, il y a donc les médias ont participé largement à faire connaître et donc à susciter une envie chez les personnes et donc de pouvoir avoir évidemment un bassin de recrutement de joueurs beaucoup plus élevé. Donc ça veut dire que la médiatisation ne peut pas attendre le fait d'avoir une professionnalisation, par exemple, des joueuses, tout simplement parce que les deux vont fonctionner ensemble. Donc ça veut dire que les joueuses, pour être professionnelles, ont besoin aussi de cette exposition et d'avoir ici à la fois une reconnaissance de leur statut, etc. La question, c'est aussi de relier, par exemple, la formation avec l'idée qu'il y aurait une meilleure qualité. Là, alors, de fait, plus on a de formation et plus on peut imaginer que le foot va être de qualité, mais surtout, cette qualité, en fait, dépend essentiellement des conditions qu'on va offrir aux joueuses. Et jusque-là, il y a eu on va dire, beaucoup de témoignages. Et là, je pense à des témoignages de joueuses. On peut penser ici au livre, par exemple, de Mélissa Plaza, dans lequel elle explique les conditions dans lesquelles elles sont amenées à performer. Et on voit bien que les conditions étaient complètement différentes entre les hommes et les femmes. Alors, ça va être difficile ici de pouvoir, par exemple, comparer ces éléments-là. Donc, ça veut dire que le niveau de jeu va, et on le sait, avec le financement. Et ça a été montré depuis longtemps, par exemple, par la FIFA. Les meilleurs clubs sont aussi les clubs qui vont être les plus financés. Il va y avoir des exceptions, on le voit chaque année, mais dans la majorité des éléments, ça veut dire qu'il faut avoir des conditions. Dans l'ouvrage de Mélissa Plaza, on voit bien qu'on n'a pas les joueuses n'ont pas du tout les mêmes conditions, le même accompagnement, les mêmes structures, les mêmes équipements. Et donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas ces mêmes éléments, effectivement, on est très loin d'une égalité entre hommes et femmes. Donc, pour répondre sur la médiatisation, elle doit accompagner les deux et elle peut pas venir, on va dire, en dernier recours, quoi.
Et justement, pendant longtemps, les femmes, elles ont dû, et encore aujourd'hui, elles ont dû performer pour être regardées, comme si elles n'étaient pas légitimes si elles ne gagnaient pas. Comment est-ce que vous expliquez cela?
La médiatisation a été, en fait, on a un processus très simple de sous-médiatisation des femmes. Ça veut dire qu'on parle beaucoup moins des femmes dans à peu près l'ensemble des sports, et notamment. Et là, les recherches l'ont montré assez facilement. Plus il s'agit de sports qui sont considérés historiquement comme masculins ou qui se sont construits comme étant éloignés des normes de féminité. Et donc, typiquement, c'est le cas pour le foot. Moi, j'ai travaillé dans mes travaux de recherche sur la boxe. C'est le cas aussi pour des sports comme la boxe, le rugby, etc. Et donc, ça veut dire que la médiatisation est beaucoup. Donc, les femmes accèdent beaucoup plus difficilement aux médias, et donc pour y accéder, on attend évidemment un niveau qui soit, on va dire, ou quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça veut dire qu'en fait, les femmes vont être médiatisées au moment de grands événements sportifs, donc les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc. Mais le reste de l'année, elles sont très peu médiatisées. Et le fait de peu les médiatiser, ça veut dire qu'on en voit, on voit finalement très peu de femmes. Et ça veut dire qu'on empêche aussi les projections, notamment des plus jeunes, par exemple, à voir des femmes pratiquer du rugby, du foot, etc. Donc là, on parle vraiment sur du sport de haut niveau. Mais si on regarde dans la presse quotidienne régionale, on trouve exactement ce même processus. Et donc, on a beaucoup plus, évidemment, de clubs, on va dire, avec des hommes. Et donc, ça veut dire que là aussi, en fait, se renforce cette idée que les femmes sont invisibilisées. Ça ne veut pas dire qu'elles jouent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles gagnent pas. Ça veut dire qu'elles accèdent plus difficilement aux médias. Et donc, ça veut dire que, de fait, on les voit moins. Et la raison à ça, c'était pendant longtemps. En fait, il y a eu plusieurs explications avancées à ça. Ça a été de dire que il y aurait pas de public, il y aurait pas d'audience. Finalement, on voit que quand il y a des Coupes du Monde ou certains événements, l'audience est au rendez-vous. Et donc, en fait, il y a toujours un élément pour expliquer. Donc, pendant un moment, l'explication était de dire que le foot n'est pas aussi technique, il n'est pas aussi intéressant, il n'est pas. Et en fait, on se rend compte qu'il peut l'être tout autant. Donc, il y a, en fait, on va dire, ces différentes explications qui se sont succédées, mais qui amènent toujours aujourd'hui à une restriction. Et donc toujours une sous-médiatisation très, très forte des femmes.
Et justement, vous parlez de la Coupe du Monde, on a l'exemple de la Coupe du Monde 2019. Est-ce que pour vous, c'est un tournant que ça a été, ou c'était juste vraiment un engouement médiatique ponctuel qu'on a eu du mal à retrouver après. On rappelle que la Coupe du Monde 2019 est en France.
C'est vrai que nous, en recherche, on parle... c'est rare qu'on y voit une fracture nette. Par contre, là où le discours est intéressant à regarder, c'est que, en fait, à chaque événement très important, et c'est vrai pour les Coupes du Monde, et c'était encore plus vrai en 2019, on a ce discours, en fait, qui est un discours porté par les médias, mais aussi porté par les institutions, qui veulent aussi montrer à quel point elles font des efforts pour féminiser, à quel point elles ont pris en compte les éléments, et de dire, finalement, ça va être comme un test, un peu grandeur nature, de dire, est-ce que enfin cette fois, ça va intéresser. Et ce qui est intéressant pour nous, en tant que chercheurs et chercheuses, c'est comme on le suit sur un temps long, on voit qu'en fait, à chaque nouvelle Coupe du Monde ou chaque événement de cette ampleur, on pose la même question du côté des femmes, alors que cette question ne se pose pas du côté des hommes, mais que par contre, on a à chaque fois des records d'audience. Et donc, en fait, on va médiatiser, tiens, un record d'audience, un record d'affluence, un record de... Et ça veut dire que, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est un discours qui continue, en fait, à s'appuyer sur le discours préexistant dont je parlais, cette idée que finalement, regarder des femmes jouer, ça n'intéresserait pas, ça ne trouverait pas son public, et donc c'est ce qui expliquerait qu'il n'y a pas de raison de les médiatiser. Ça pose plusieurs questions. Le premier, c'est que ça voudrait dire qu'on accepte tous collectivement qu'on ne médiatise des sports que s'il y a des audiences et que donc ça rapporte quelque chose, ce qui est, là, ça pourrait concerner éventuellement que les télés, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas le cas pour les titres de presse. Et donc, est-ce qu'on a cette vision, en fait, qu'il faut absolument à la fois performer et ramener des financements pour être médiatisé? Ça, c'est une vraie question. Et la deuxième, c'est à nouveau de le présenter comme ça va être un test. Et si ça plaît, on va le développer. Sauf que, ben, en fait, il n'y a personne qui garde cette mémoire du fait que cette question, en fait, on l'a déjà posée plein de fois et que la réponse a déjà été finalement largement apportée aussi.
Et justement, on a l'impression que chaque Coupe du Monde, enfin, chaque prochaine Coupe du Monde, ce sera celle où ça va lancer le football pratiqué par les femmes, en fait.
C'est ça, exactement. Le discours qui est développé est vraiment celui-là, de dire on va voir si ça... Et je pense qu'il y a aussi une volonté pendant longtemps de valoriser le foot pratiqué par les femmes en disant ça va être un autre foot, c'est-à-dire différent de celui des hommes, et avec ce foot, on va attirer un public plus féminin. Et je pense que là aussi, c'est une erreur de le percevoir comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un public plus féminin aille voir du foot joué par les femmes. Et dans les retours qu'on a, par exemple pour le suivi qui peut être fait par l'ARCOM, on voit bien que les personnes qui regardent du foot, hommes ou femmes, sont à peu près les mêmes, dans le sens où ce sont des personnes qui sont on est plutôt sur des types grands consommateurs de sport, donc on aime le foot, que ce soit pratiqué par les hommes ou par les femmes. Donc le foot au féminin n'est pas forcément plus regardé par des femmes, et c'est pas forcément la vocation, en tout cas, qu'il peut avoir.
On va faire maintenant une petite pause musicale pour clôturer cette première partie d'émission.
Sélection féminine, sélection féminine. Sélection féminine, si t'as pas le level, on te limite. Sélection féminine, sélection féminine, sélection féminine, si t'as pas le level, on t'élimine. Sélection féminine, sélection féminine, sélection féminine, si t'as pas le level, on t'élimine. Ok, c'est à nous parler, on prend le contrôle, pas là pour charmer. Sélection féminine, direct, on t'élimine, on n'a pas le temps de voler pour parler. T'as voulu faire le crochet comme Aïssa, mais t'es sur le terrain, t'es pas à FIFA. Ça le fait pas si t'es paré, ce pari si pareil que c'est pas facile, passer, ne panique pas. T'as l'air choqué de voir des gosses sur le terrain, ça y est là tu doutes. T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot. Les dribblés, les crochets vont casser les reins. On met tout le monde d'accord, on va fédérer. C'est l'étape clé pour achever l'action. La 17 dans l'action, on attaque, c'est l'heure d'accélérer. Deux jambes comme Henri, Amandine Pacheri. Ouais c'est comment, les gos sont aux commandes. Je, deux jambes comme Henri, Amandine Pacheri. Demande à Renard ou à le sommaire. Bien sûr qu'on vise le sommet. Non, la défaite n'est pas au sommet. On applique une tactique, ça la base de pastille. Balle amortie poitrine, passer la ligne en zigzag. Sur le terrain, tu nous démarres, rien d'étonnant. Cette satanée, tu ne passes pas la mi-temps car on est tenace. Bang!
en face, elles vont cavaler. Les crampes aux mollets, ça va pas tarder. T'as pas confort pour les coucher sur les couffres, hein, j'ai tout donné quand tu savourais ta chouffe sur ton canapé.
J'ai deux jambes comme Henri, Amandine Pacheri. Ouais, c'est comment les go sont aux commandes. J'ai deux jambes comme Henri, Amandine Pacheri. T'as voulu tester, on t'a mis ça. Et ouais, les filles jouent au foot, on t'a pas dit ça.
Sélection féminine.
Pour cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Audrey Gauzillon, maîtresse de conférence à l'UFR STAPS de l'Université de Rouen, Normandie, et chercheuse au CETAPS. Bonjour.
Bonjour.
On a fait un retour sociologique, historique et même économique en première partie d'émission sur l'évolution du football dit féminin. Mais alors, si les mentalités évoluent aujourd'hui, pourquoi Rennes a-t-elle attendu aussi longtemps pour investir dans une section féminine? Et surtout, est-ce que le développement actuel du Stade Rennais féminin marque un vrai tournant dans l'histoire du football rennais? Depuis 2021, le Stade Rennais au féminin se développe rapidement. Cette saison, l'équipe a dominé son championnat de régional avec plus de 120 buts marqués et 17 victoires en 18 matchs. Une saison parfaite donc, et désormais l'objectif d'accéder à la 3ème division. Alors où nous enregistrons cette émission, le match aller entre Amiens et le Stade Rennais pour l'accession en national a déjà eu lieu. Résultat 6-0 pour les Rennaises. Match retour dans quelques jours, mais pas trop de soucis à se faire quant à l'issue. Alors voilà, on peut voir un développement rapide et de très bons résultats. Mais ce qui pose question, c'est pourquoi un club qui a 125 ans possède une section féminine depuis seulement 5 ans. Côté Stade Rennais, on ne peut pas vraiment parler d'une raison financière en plus. J'ai donc demandé à Lucas Rondel son avis sur le retard de cette section féminine et voici sa réponse.
À partir du moment où vous avez un club qui a les moyens, surtout que les sections féminines, si vous regardez les budgets des sections féminines, c'est vraiment, ça ne représente pas grand-chose par rapport au budget masculin. Donc quelque part, si vraiment il y a des clubs qui ne veulent pas investir dans le football féminin, c'est volontaire. Mais ceci dit, le Stade Rennais n'est pas le seul en Europe. Hein. Vous voyez par exemple le Real Madrid, c'est leur section féminine. Donc ils ont racheté un club féminin, ils l'ont pas monté de toute pièce. C'est très récent, quoi. Il n'y a que quelques équipes qui ont vraiment qui ont développé leur football féminin. Donc après les années 60, hein, mais c'est vrai qu'après, bon, même les grands clubs se sont vraiment mis sur le tard. Et bon, voilà, le Stade Rennais n'est pas un cas particulier.
Audrey Gauzillon, est-ce que vous sauriez expliquer ce choix? Parce qu'on peut clairement parler d'un choix ici.
Oui, bah alors il y aurait plusieurs explications. Effectivement, comme Luc l'a dit précédemment, une tendance. Aujourd'hui, effectivement, on constate que énormément de clubs de Ligue 1 commencent à créer leur section féminine. On peut aussi penser comme une espèce de pression institutionnelle qui n'en est vraiment pas une, enfin qui n'en est pas vraiment une, mais il y a quand même eu la création de la Ligue féminine de football professionnel en 2024. Il n'y a pas encore d'obligation pour ces clubs de Ligue 1 à avoir des sections féminines, mais il y a des petites incitations par le biais de l'obtention de labels, où effectivement il y a des obligations en matière d'équipe féminine. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent peut-être expliquer l'engagement du club de Rennes. Après, à voir comment le club va structurer sa section. Pour l'instant, il n'y a pas encore de centre de formation. Donc voilà, je pense que c'est assez récent. Il faut aussi leur laisser le temps de se structurer et puis voir si sur le temps long, le club va vraiment mettre les moyens derrière sa section féminine pour lui permettre de tenir dans le temps ou si finalement, dans quelques temps, elle sera amenée à disparaître. Moi, je pense qu'il faut laisser un peu le temps au club pour structurer tout ça sur le temps long.
Et du coup, pourquoi 125 ans pour les garçons et pourquoi seulement 5 ans du côté des filles?
Parce que je pense tout simplement que pour tout le monde, le foot, c'est un sport d'homme. Et ça, c'est encore ancré hein, dans les mentalités. Quand on parle de foot, de toute façon, quand je dis foot, on pense au foot des hommes. Quand on veut parler du foot des femmes, on est obligé de le spécifier. On parle du foot féminin. Donc voilà, c'est très ancré quand même dans la société aujourd'hui que le football est un sport d'homme. Pendant très longtemps, on n'a pas pensé ni même imaginé que les femmes pouvaient jouer au football. Aujourd'hui, les choses, elles sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer, que ce soit en France ou en Europe. Donc aujourd'hui, conjuguer le football au féminin, ça paraît un peu plus cohérent et logique pour pas mal de monde. Pas mal de clubs se sont lancés aussi dans la mouvance avant Rennes. Hein. Je parle de l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui a créé sa section féminine il y a bien longtemps. Et sa section féminine, aujourd'hui, elle est très performante. Il y a d'autres clubs qui ont suivi la mouvance derrière. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure, les clubs de Ligue 1 qui n'y pensaient pas, en voyant les autres, en voyant la pratique se structurer en France, ils ont peut-être fini par se dire que effectivement, c'était quelque chose d'envisageable.
Et ça se passe comment pour ce qui est des labels ?
Dans les clubs, il faut qu'il y ait des équipes jeunes chez les filles. Et donc souvent, ce que font les clubs, c'est créer des équipes féminines chez les jeunes filles. Et pas forcément chez les seniors, puisque quand on a des équipes jeunes, on peut avoir les labels. Il y a zéro obligation en ce qui concerne les équipes féminines seniors. Donc il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour les clubs, de n'importe quel niveau que ce soit, d'avoir une équipe féminine senior. Par contre, s'ils veulent des labels et avoir une reconnaissance institutionnelle validé par le biais du label, il faut qu'il y ait des équipes jeunes féminines.
Est-ce que le football pratiqué par les femmes est encore dépendant économiquement du football masculin ?
Aujourd'hui, il y a deux catégories de clubs, en fait, au plus haut niveau. On va avoir les clubs de Ligue 1 qui vont faire vivre sous la même entité la section masculine et la section féminine. Et donc là, les budgets sont partagés, alors dans une moindre mesure pour les filles, mais globalement, le budget est partagé entre les deux sections. Et vous avez après des clubs de Ligue 1 qui ont fait le choix de séparer la section féminine de leur entité. Par exemple, à Lyon, ils ont détaché la section féminine de l'entité masculine. Et donc là, la section féminine fonctionne comme une entité autonome avec son propre budget.
Et c'est mieux pour une section féminine d'être dépendante ou d'être autonome financièrement ?
Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de manière de faire. Ça peut très bien se passer dans un club où les deux sections sont sous la même entité si les dirigeants sont convaincus et que les dirigeants donnent de l'argent et aident les filles à fonctionner sur l'année. La seule différence que je peux constater quand l'entité elle se détache de celle des hommes, c'est qu'effectivement, les filles elles sont autonomes sur leur budget. C'est leur propre budget, elles gèrent leur propre budget comme elles l'entendent. Là où, quand elles sont rattachées à la section masculine, bah, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait entre... Enfin, il faut que le club, l'entité, décide d'attribuer une certaine part du budget aux féminines. Donc là, ça peut être un peu plus problématique, mais si le président est convaincu et que le président est à fond derrière sa section féminine, il leur donnera toujours les moyens de fonctionner à l'année. Après, ça passe plutôt pour moi par une réelle conviction des dirigeants du club, en fait.
D'accord. Justement, par exemple, dans le cas du DFCO, donc à Dijon, on en parle pas mal en ce moment, la section féminine est menacée d'être supprimée. Là, pour le coup, il y a une dépendance entre les deux. Il y a ce choix de potentiellement supprimer cette section féminine. À cause des problèmes économiques du club, c'est le sacrifice, c'est plus la section féminine qui va être sacrifiée qu'autre chose, quoi.
Ouais, exactement. Bah, alors après, là où peut y avoir des limites quand l'entité, elle gère à la fois la section masculine et la section féminine, c'est que s'il y a des difficultés financières dans le club, souvent ce que les dirigeants des clubs vont couper en premier, c'est les financements des centres de formation et les financements des sections féminines. Un peu comme si finalement la section féminine, c'était une variable d'ajustement, quoi. On a de l'argent, elles peuvent rester, on n'a pas d'argent, on va couper la section féminine. En fait, les dirigeants partent du principe qu'ils vont d'abord... réduire les financements de ce qui leur paraît plutôt secondaire et continuer d'alimenter financièrement ce qui leur paraît prioritaire. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde, enfin dans un pays où le football est plutôt un sport d'hommes, ils vont plutôt avoir tendance à couper les financements des sections féminines plutôt que celles des sections masculines. Mais Luc a raison quand il dit que les sections féminines, ça représente une part infime des budgets des clubs. Il a raison, je crois que c'est 5-6% des budgets globaux des clubs, la section féminine. Mais les dirigeants préfèrent quand même mettre fin à la section féminine plutôt que de couper des budgets qui sont plutôt alloués à la section masculine, en fait.
Mais est-ce que c'est pas encore plus inquiétant de voir qu'ils choisissent de couper dans le budget des féminines, malgré la part infime que ça représente sur le budget par rapport à l'équipe masculine ?
Exactement. Après, à part et infime quand même dans le budget global, après, quand on parle aux responsables des clubs de Ligue 1, ce qu'ils nous donnent comme argument à chaque fois, c'est « mais vous ne vous rendez pas compte, la section féminine, elle nous coûte de l'argent ». Mais en fait, je leur dis « mais la section masculine aussi, elle vous coûte de l'argent ». Mais en fait, comme il y a moins de spectateurs, comme ils ont l'impression qu'il y a moins d'engouement, moins de visibilité médiatique, etc., ils préfèrent en fait... réduire le volet financier de la section féminine plutôt que de faire des efforts du côté de la section masculine, en fait.
Et il y a cet argument qui est faux, en plus, de dire que les sections féminines, elles sont à perte par rapport aux sections masculines, parce qu'on sait que ce ne sont pas les seules qui sont à perte.
C'est pour ça que c'est assez paradoxal. Mais ils préfèrent, en tout cas, ils préfèrent faire le choix de faire disparaître leur section féminine plutôt que de mettre en difficulté, ou en tout cas de mettre encore plus en difficulté leur section masculine. C'est un peu l'idée.
Donc en ce moment, on parle beaucoup de la convention collective, qui est un accord qui encadre les conditions de travail des joueuses et qu'elles attendent depuis 3 ans, 3 longues années. Et enfin, elle est en bonne voie. C'est un pas indispensable pour le développement du football pratiqué par les femmes. Audrey, cette longue attente pour obtenir ces droits, qu'est-ce que ça dit selon vous de la place encore accordée au football pratiqué par les femmes ?
Pour moi, ça a toujours été un combat. En fait, la place des femmes dans le football, ça ne va pas de soi. Les femmes, elles ont, tout au long de l'histoire, hein, c'est quelque chose qu'on observe, elles ont dû se battre en fait pour faire changer les choses, elles ont dû se battre pour pouvoir jouer au football, elles ont dû se battre pour être connues par la fédération. Elles ont dû se battre après pour avoir le statut de joueuse professionnelle. Elles ont continué de se battre pour obtenir cette fameuse convention collective. Voilà, en fait, il y a quand même une domination masculine qui est là, qui est encore présente, notamment dans le football. Ça ne va pas de soi d'accueillir des femmes qui font du foot. Les mentalités changent, mais les mentalités, elles changent doucement. Donc, c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui a toujours pris du temps. Donc, pour moi, il faut continuer à œuvrer pour que les choses, elles, changent. Il faut continuer de soutenir les acteurs qui sont engagés à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau de la fédé. C'est que ces acteurs qui tentent de faire changer les choses, parce que finalement, le combat, bah, il n'est pas terminé. Il y a encore plein de choses sur lesquelles bah, on peut travailler, et il y a encore plein de choses qui pourraient évoluer pour permettre aux joueuses de pratiquer dans de meilleures conditions. Et là où, pour moi, il faut aujourd'hui encore être très attentif, c'est que il y a aujourd'hui un retour des discours très masculins, où la masculinité est un peu en train de revenir sur le devant de la scène. Attention à ne pas faire marche arrière. C'est un peu l'idée aujourd'hui. On a avancé, les femmes ont gagné leur place, elles continuent de se battre pour avoir encore plus que ce qu'elles n'ont aujourd'hui. Et donc moi, je dis attention pour ne pas faire marche arrière. Attention à continuer d'œuvrer à tous les niveaux pour que la place qu'elles ont déjà obtenue leur soit encore attribuée dans les années qui viennent, et qu'on puisse encore faire mieux.
Et du coup, finalement, l'étape suivante, j'avais demandé justement, c'était quoi la prochaine étape après cette convention collective? Ce serait plutôt de faire attention à ne pas repartir dans l'autre sens.
Il y a plein de choses, hein. On peut encore changer plein de choses. Mais effectivement, pour moi, il faudrait continuer à œuvrer pour que la place des femmes dans le football, elle soit encore plus reconnue, qu'elle soit encore plus légitime, leur permettre d'avoir des conditions de pratique qui, un jour ou un autre, soient identiques à celles des hommes. Et puis effectivement, ne pas faire marche arrière, ne pas se dire du jour au lendemain, ok, on a tenté, ça n'a pas marché, ou finalement les femmes, elles n'ont rien à faire là, et donc bah, on va faire marche arrière et leur retirer tout ce qu'elles ont obtenu en se battant. Donc voilà, on peut encore faire changer des choses, mais il faut aussi faire attention à ce que ce qu'on ait déjà obtenu ne leur soit pas enlevé, en fait.
Vous, Swazig, en tant que supportrice rennaise et déléguée Eurgame 2, est-ce que vous sentez malgré tout un changement autour du football pratiqué par les femmes ?
Alors, au niveau du Stade Rennais, moi, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus un engouement pour supporter l'équipe féminine, l'équipe de football féminin du Stade Rennais, et elles le méritent, en plus, d'autant plus qu'elles vont sûrement passer au niveau supérieur. On verra ça dimanche. Sinon, au niveau du foot télévisé, c'est vrai qu'il n'y a pas encore tellement d'audience, hein, mais bon, ça va venir aussi, et c'est un souhait. C'est un souhait de nous toutes quand même, parce que ça fait partie aussi du monde du sport, et les femmes ont toute leur place dans le monde du sport, en tant que joueuses, en tant que supportrices, bien évidemment, et en tant que cadre et coach aussi, quoi.
Et donc maintenant, nous allons écouter Birds on a Wire de Rosemary Stanley et Dom la Nena, un morceau choisi par Swazig.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I
a baby stillborn, like a beast with his horn. I have torn anyone who reached out for me, but I swear by the song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, he must not ask for so much. A drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Retour en plateau dans De Boules Vanille sur Canal B 94 FM. Je suis toujours avec Sandy Montagnola, enseignante-chercheuse et Swazig, déléguée de l'association Orgame 2 au Stade Rennais. Alors, on a parlé du terrain, des clubs, de l'économie du football pratiqué par les femmes. Mais le football, ce n'est pas seulement ce qu'il se passe sur la pelouse, c'est aussi ce qu'il se passe dans les tribunes. Carole, abonnée au Stade Rennais depuis 10 ans, nous explique ce que c'est être une femme en tribune.
Donc, je vais à tous les matchs à domicile avec mon mari et on a même fait 3 déplacements européens. Ah, là, ces moments-là, ça reste probablement les moments les plus forts que j'ai vécu. Alors, en ce qui concerne d'être une femme qui aime le football, bah parfois c'est très difficile à faire comprendre, surtout aux autres femmes, bah qui elles n'aiment pas ça. On a souvent l'impression qu'on accompagne son conjoint ou ses amis au stade. On nous prend un peu pour des extraterrestres en fait. Alors que moi, là dans mon cas, bah être supportrice des Rouges et Noirs, bah c'est profondément personnel en fait. J'aime le football, j'aime le Stade Rennais, j'aime porter ses couleurs et surtout, bah j'aime ce qu'il provoque chez moi. Toutes les émotions que je ressens lors d'un but, d'une victoire, et puis bah, même dans les défaites, bah ça, je les retrouve nulle part ailleurs, en fait. Nulle part ailleurs. Et ce que j'aime aussi, bah, c'est le lien humain que cela crée. C'est comme une union. On est tous réunis autour du drapeau rouge et noir. Finalement, je dirais que bah, le Stade Rennais fait partie de ma vie depuis l'enfance. Et surtout qu'il fait partie de mon quotidien. Alors pour beaucoup de gens, le football, ce n'est qu'un sport. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est une histoire de transmission, d'émotion, mais surtout, et surtout, d'appartenance. En fait, quand on est par exemple dans un groupe de personnes, en soirée ou autre, et souvent ce sont les hommes hein, qui parlent foot. Bah, moi, je vais intervenir par exemple dans une conversation. Et en fait, il y a comme une espèce de regard qui se pose en se disant « Ah ouais, ah mais elle aime le foot, ah ouais, ah ben s'y connaît un peu. » J'ai ressenti plus une forme de, ouais, d'un peu de respect, quoi. Moi, je vais au Stade Rennais depuis que je suis petite. C'est-à-dire que mon père m'emmenait au stade de la Route de l'Orient à l'époque. C'était wow, comme ça. Il n'y avait pas du tout, mais alors pas du tout de femmes à l'époque. Hein. Et en fait, je dirais que il y a eu l'effet Coupe de France. Depuis 2019, le port des couleurs, cette espèce d'union, ça a eu un effet libérateur. Et je trouve, moi, franchement, depuis ces dernières années, depuis 5 ans, 5-6 ans, ouais, il y a de plus en plus de femmes et de jeunes femmes.
Donc c'était Carole qui est abonnée depuis 10 ans au Stade Rennais. Sandy et Soizig, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Carole ?
Bah, je peux commencer. En fait, effectivement, ouais, je confirme quand même qu'il y a de plus en plus de femmes dans les stades et au Stade Rennais pour y aller aussi. Et en fait, nous, on est un groupe de 8 amis, on est 4 hommes, 4 femmes, quoi. Bon, bien évidemment, je suis la plus âgée, mais les deux autres ont une trentaine d'années quand même. Mais, et des amis, effectivement, bah, Eurgame 2, on est quand même toutes supportrices de ballon. Ça fait vraiment plaisir, ouais. Ça fait plaisir et qu'en fait, le supporterisme n'appartient pas aux hommes. On a toute notre place.
Et Sandy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport au témoignage de Carole ou ce que vient de dire Soizig ?
Bah, en fait, je trouve que ça montre très bien cette notion finalement d'évolution qu'on va avoir ici, y compris sur un processus de féminisation. Mais je pense que ça montre très bien que oui, on va avoir des progrès, mais en fait ces progrès, ils doivent continuer d'être accompagnés, notamment par les institutions, pour avoir aussi une, on va dire, un développement qui se limite pas ici, mais que ça puisse aussi aller plus vite, parce que cette féminisation, elle n'est pas encore forcément massive, et donc ça soulève aussi d'autres questions qui doivent être réglées, comme celle de des violences, comme celle de la place qu'on peut donner finalement aux femmes.
Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes dans les tribunes. Est-ce qu'elles se sentent toutes légitimes et intégrées ? Ça c'est un autre sujet. Mais malheureusement, il y a aussi des cas de violences sexistes et sexuelles dans les tribunes en France. Et pour lutter face à cela, il existe une association, Eurgame 2. Créée au Royaume-Uni en 2021, Eurgame 2 lutte contre le sexisme dans le football et travaille à rendre les stades plus inclusifs pour les femmes supportrices. L'association est présente en France depuis 2023 et désormais à Rennes. Nous avons avec nous en plateau Soizig, qui a déjà parlé depuis tout à l'heure. Vous êtes l'une des déléguées de l'association Eurgame 2 à Rennes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le rôle de l'association ?
Alors effectivement, comme vous l'avez bien dit, elle promeut le supporterisme des femmes et l'inclusion, et toute inclusion, de toutes, en fait, on lutte contre toutes les discriminations, mais notamment on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pas seulement dans les stades, ça peut être aussi dans les bars, aux alentours, on veille quand même, on peut avoir des bars partenaires autour du Stade Rennais, on est en train de travailler avec eux, mais dans les autres villes, effectivement, dont les clubs sont partenaires à Eurgame 2. Eurgame 2, effectivement, on est quand même bien implanté sur le territoire, on a quand même a une quarantaine de membres avec 18 à 20 ambassadrices et donc autant et un petit peu plus de délégués du coup. Et en fait, depuis la dernière AG en janvier 2026, on s'est restructuré avec un pôle partenaire, un pôle événement, un pôle administration, un pôle communication et un pôle sensibilisation dont je suis la responsable. Et là, justement, on recense toutes les sensibilisations aux violences sexistes et sexuelles qui ont été faites, qui vont être faites. Et puis, en fait, on est aussi présente au quotidien. Et à chaque fois, on veille et on participe avec le Stade Rennais aussi, effectivement, à la lutte contre le sexisme et sexuel dans les tribunes.
Justement, de par ce rôle, est-ce que le stade, pour vous, reste un espace qui est intimidant pour les femmes ?
Il y a une enquête qui a été faite avec des collègues de Eurgame 2 sur différents stades. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est qu'il y a quand même encore une crainte d'aller seule, non accompagnée au stade. Il y a des craintes au niveau de la violence qu'il pourrait y avoir, de l'état d'ébriété de certaines personnes, des palpations aussi qui parfois peuvent être abusives. Voilà. En fait, il y a quand même 2300 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et ce qui ressort, effectivement, qu'il y a 64% d'entre elles qui ont un sentiment de gêne, d'humiliation ou d'insécurité au niveau des fouilles ou des palpations. Il y en a 37,5% qui déclarent avoir déjà été intentionnellement touchées aux parties intimes pendant ces moments-là. Voilà. Et en fait, au niveau des violences sexistes et sexuelles, ce qu'elle montre l'enquête aussi, c'est qu'il y a 21% qui déclarent avoir été témoin ou victime d'un comportement sexiste et d'une agression sexuelle dans le stade. Et il y a 10% qui déclarent ressentir une appréhension à l'idée de subir des VSS justement au sein d'un groupe de supporters ou d'ultra. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte, qu'effectivement de plus en plus de femmes viennent, mais quand même, elles ne viennent pas toutes sereinement et ça, c'est quand même pas normal, quoi.
Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de formes de sexisme dans les tribunes encore. Et malgré tout, est-ce que vous sentez que les mentalités, elles évoluent dans les tribunes ?
Ouais, les mentalités évoluent quand même parce que grâce à toutes les formations, toutes les sensibilisations qu'il peut y avoir, et les protocoles qui ont été faits à l'intérieur, on en reparlera peut-être au niveau du Stade Rennais, en fait, certains groupes ultra soutiennent leurs supportrices, voilà. Et même, il y a eu des ateliers de sensibilisation qui ont été faits aussi auprès de certains groupes ultra. Voilà. Donc, effectivement, ça bouge. Pas encore assez, mais on a envie d'y croire.
Justement, on y vient aux actions. Il y a eu des actions concrètes qui ont été mises en place avec justement ce protocole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été fait ?
Ouais. Alors, en fait, les clubs ont quand même tout intérêt aussi à s'approprier cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est quand même aussi une demande de la part de la Ligue et de la part de, FFF. Hein. Donc, en fait, tout club sensibiliser ça, fait un protocole de prise en charge et d'accueil de la victime avec les repérages. Voilà. Les stadiers, ils peuvent aussi avoir leur importance, hein, effectivement. Hein, c'est eux, ils sont suffisamment visibles en plus dans le stade. Donc on va amener ces personnes-là dans des safe zones et on en a identifié aussi, effectivement, quelques-unes dans le Stade Rennais pour pouvoir accueillir la parole de la victime. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un atelier de sensibilisation auprès des stadiers et des stadières. Et de là, en fait, spontanément, quelques personnes se sont volontairement nommées référentes VSS au sein du Stade Rennais.
Et est-ce que justement ce sont que des femmes qui sont référentes ou est-ce qu'il y a aussi des hommes référents ?
Alors, il y a pour l'instant que des femmes référentes, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres actions que vous pouvez faire ?
Alors, les actions, en fait, là, on avait demandé à ce que les toilettes, ça paraît, voilà, mais que les toilettes, en fait, soient un peu plus pratico-pratiques. Donc, en fait, toutes les toilettes côté femmes ont été changées, voilà, avec des poubelles aussi. Donc, ça s'est fait. Et maintenant, là, on va travailler aussi pour qu'il y ait une distribution, un distributeur de protection hygiénique, en fait, qui soit au même titre qu'on a du papier toilette, qu'on a du sopalin. Ben voilà, il faut avoir des protections, voilà, pour qu'on puisse venir en tout bien-être aussi dans le stade.
Et aussi, si je ne me trompe pas, il y a des QR codes dans
les
toilettes.
Oui, il y a le QR code de signalement, effectivement. Oui, il y a un QR code avec aussi, donc, le partenaire et sororité aussi. Et puis Sport Inclusif aussi, qui est partenaire aussi du stade. Alors, depuis peu, on est partenaire de France Victime 35. Voilà. Donc là, le contact va être pris. Je les ai rencontrés l'autre jour, mais un contact va être pris avec toute l'équipe, en fait, qui a un partenariat aussi avec la Ligue. Voilà. Et là, France Victime 35, c'est plus pour l'écoute et le guidage après, effectivement, des personnes victimes de VSS.
Donc il y a un vrai travail, on voit, de sensibilisation. J'ai aussi entendu parler d'un jeu de société Zone Mixte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et à qui il est destiné ?
Alors, Zone Mixte, en fait, il a été créé par toute une équipe de bénévoles d'Orgame2, hein, à travers la France, dynamique et motivée. Et en fait, c'est un jeu de plateau, un jeu de société qui, pour l'instant, est destiné aux joueurs et aux joueuses, au staff. Donc c'est un jeu qui est en plusieurs parties. Il y a vie quotidienne, il y a limite et consentement, il y a ce que dit la loi, il y a le monde sportif, prévenir à agir, stéréotypes et sexisme, et quelques cartes bonus aussi où on voit des tifos. Parce que les violences sexistes et sexuelles, non seulement elles sont verbales, physiques, mais elles peuvent être aussi à travers des tifos qui sont affichés dans les stades pendant les matchs, en fait, quoi. Et en fait, là, donc, on a mis plusieurs mois. Il a un super logo. On a une collègue qui est illustratrice. Donc, il est génial. Il est vraiment génial. Moi, j'attends avec impatience de le tester auprès du Stade Rennais. Et en fait, là, on est en train de l'adapter aux 10-15 ans. Donc là, c'est un travail qu'on fait en ce moment. Voilà, en fonction des cartes, tout ne peut pas être adapté et adaptable aux 10 ans. Donc voilà, donc c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps. C'est un travail à temps complet, en fait, mais c'est chouette.
Et du coup, justement, là, il est adapté pour que ce soit aussi pour les centres de formation, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Là, on est en train de... Alors, les centres de formation, effectivement, ils sont un petit peu plus âgés, mais on peut aller dans les écoles de foot aussi, ou avec une autre déléguée amateur, j'ai été intervenue à Cesson. C'est son club pour les prévenir des violences sexistes et sexuelles aussi, et les stéréotypes de genre.
Est-ce qu'il y a d'autres actions, que ce soit à Rennes ou dans d'autres clubs que propose Urgame2 ?
Alors, beaucoup d'ateliers de sensibilisation, en fait. On est quand même vraiment tourné sur les ateliers de sensibilisation. Plus on en fait, et plus on va faire en sorte de limiter ça. Et au moins de prévenir. Comment est-ce qu'on accueille la parole? Où est-ce qu'on la dirige? Vers qui on la dirige? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, la lutte contre les discriminations avec la Ligue et puis la FFF. Il y a une journée, donc on était présente aussi. Et le 8 mars, bien évidemment, le 8 mars aussi, l'an dernier, en fait, on avait participé aussi quand même à ce que les maillots de foot de toutes les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 partent le nom Uwo égale Man, en fait. Voilà. Et donc, tous les joueurs avaient ça comme maillot.
Nous allons maintenant écouter Debout les femmes, un hymne qui avait d'ailleurs été entonné par quelques centaines de personnes au Roazhon Park lors de la Coupe du Monde 2019, avant le coup d'envoi du match entre le Chili et la Suède.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, comme
conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Pour vous, pourquoi le football pratiqué par les femmes a nécessairement besoin de résultats pour être suivi et pas le football masculin selon vous? Soit dit que vous voulez commencer.
Mais j'ai pas envie de croire ça en fait.
Vous pouvez.
Ouais, non, j'ai pas envie qu'elle soit obligée de surperformer pour être visible en fait. Comme tous les résultats des hommes ne sont pas toujours bons. Et pourtant, les stats sont plats. Voilà. Non, moi, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie qu'on regarde les femmes pour le plaisir du sport, déjà. Qu'il soit fait par des femmes ou par des hommes, pour le plaisir du sport. Et qu'il ne faut pas s'attacher, enfin, à mon avis, il ne faut pas s'attacher au résultat. Parce qu'avant de connaître le résultat, il faut voir le match.
Ok, super. Et vous, Sandy?
Ben, je pense que historiquement, on voit très bien qu'il y a eu des performances très fortes et qui n'ont pas donné lieu ni à plus de ni développement ni à plus de finalement de médiatisation. Je pense que on va dire la demande de résultats ou de performances plus fortes, c'est un élément qui a été utilisé pour justifier des différences qui existaient. Et si on le refait sur un chemin très très long, mais je le disais tout à l'heure, ça se développe dans les années 20. On a une interdiction qui se fait au départ par des médecins, ensuite par des institutions, avant de à nouveau développer dans les années 70 le foot et de le reconnaître encore un peu plus tard. Et en fait, on n'est pas à l'abri même maintenant, puisqu'on voit en fait l'influence que peuvent avoir des acteurs extérieurs. On n'est pas à l'abri d'avoir ici à certains moments d'autres freins. Qui peuvent être des freins politiques, qui peuvent être des freins économiques. Et donc la demande de résultats, en fait, rentre exactement. C'est-à-dire les freins qu'on avait étaient plutôt des freins scientifiques. Pendant longtemps, les médecins eux-mêmes ont participé en disant le foot, c'est pas fait pour les femmes, ça pourrait créer des problèmes. Ça a été ensuite un frein qui était économique en disant ça rapporte pas, ça intéresse pas les personnes. Enfin bref, ça veut dire que je pense que ça montre surtout ici une résistance qui est encore forte, en fait. Et l'actualité, avec le développement maintenant de discours parfois qui sont finalement contre le féminisme, si on veut dire contre l'égalité, montre qu'il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire ce qui se joue, c'est pas juste du foot. Ce qui se joue, c'est les relations aussi entre hommes et femmes. Ce que c'est de regarder ici si on est en capacité de se dire qu'à égalité, hommes et femmes peuvent jouer au foot, etc. Et en fait, c'est ça qui est en train de se jouer finalement derrière la place qu'on veut bien laisser à chacun. Et est-ce qu'on développe des équipes hommes et femmes? C'est la question, c'est est-ce qu'on partage en fait aussi les ressources? Est-ce qu'on partage et donc on reconnaît enfin que les femmes ont à la fois besoin et le droit à la même reconnaissance, aux mêmes conditions en fait que les hommes. Je pense que c'est ça qui se joue en fait derrière l'ensemble des sports, pas spécifiques évidemment au foot, quoi.
Bien, merci pour votre réponse à toutes les deux, pour vos réponses à cette question. Aujourd'hui, on voit que le football pratiqué par les femmes progresse dans la visibilité, les résultats, les pratiques, mais aussi dans les tribunes. Mais derrière cette évolution, beaucoup de questions restent ouvertes autour des moyens donnés à ces femmes, la médiatisation, les écarts économiques, la reconnaissance institutionnelle ou encore la place des femmes dans la culture football. Et finalement, la question reste peut-être celle-ci, est-ce qu'on assiste à une transformation profonde du football ou simplement à un rattrapage encore fragile et à une forme de pinkwashing? Merci à Sandy Montagnola et Audrey Gauzillon, enseignantes-chercheuses. Merci à Soazic, déléguée de l'association Eurgame 2 au Stade Rennais, pour votre participation à cette émission. Merci également à Luc Arondel, également chercheur au CNRS, ainsi qu'à Carole, abonnée au Stade Rennais depuis 10 ans. Enfin, merci beaucoup à Julie qui s'est occupée de la technique de cette émission de Boule Vanille, et merci aux auditoristes de nous avoir suivis sur Canal B.
Je pense que j'ai pris deux boules vanille.
Deux boules vanille.